Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied.
Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Oakley. On est à Paris, à la Sphera House, un événement organisé par Oakley et à mes côtés, un triathlète, double champion du monde triathlon courte distance en 2019 et 2020. Vous l'avez donc compris, il s'agit de Vincent Luis. Salut Vincent, déjà pour commencer, comment tu vas ?
Salut, tout va bien pour le moment tout roule. J'ai commencé ma saison le week-end dernier au Portugal. Ça s'est plutôt pas mal passé. Je vais recourir ce week-end encore à Liévin en France du coup. Donc ça va bien, tout va bien, les voyants sont au vert, donc j'espère une bonne année, j'espère continuer comme ça.
Top, alors déjà merci à toi pour ta disponibilité. Pour commencer, une rapide présentation comme j'ai l'habitude de le faire. Tu as 34 ans. Je disais, tu es double champion du monde de triathlon, quadruple champion du monde de relais mixte sur triathlon, et tu as participé aux trois derniers Jeux Olympiques.
Ouais, c'est ça, exactement.
On est juste.
C'est 2019-2020 pour les titres de champion du monde, donc ça commence à dater un petit peu. Et mes premiers Jeux à Londres 2012, Rio en 2016, Tokyo en 2021. Et puis voilà, ouais, ça commence à faire maintenant, et 34 ans aussi, ça commence à faire.
Alors justement, on va y revenir plus tard parce que tu as d'autres projets aussi par la suite, mais on va y revenir. Durant ce podcast, donc on va donc évidemment s'intéresser à ta carrière. On va traiter un peu de tes entraînements, voir un petit peu ce que tu fais en termes d'entraînement pour préparer justement ces triathlons. Les prochains objectifs, avec évidemment les Jeux cet été. La transition prévue, donc ce que je disais un petit peu tout à l'heure, vers des distances un petit peu plus longues. Mais on va également s'intéresser à ton partenaire Oakley, donc une marque de lunettes qu'on voit beaucoup sur les courses. Et tu pourras donc nous éclairer un petit peu sur la marque.
Découvrez le summum des lunettes de sport avec les Oakley Sphera, les lunettes qui se laissent oublier. Conçues pour repousser les limites des performances, quel que soit le sport, le large champ de vision des Sphera garantit de tout voir. Légères, durables et antidérapantes, ces lunettes vous offrent du confort pour toutes vos aventures sportives. Alors, n'hésitez plus et achetez votre paire sur Oakley.com.
Pour commencer, déjà, comment t'es venue cette passion pour le triathlon ?
Alors moi, j'ai commencé par la natation depuis tout jeune, depuis que j'avais 5-6 ans peut-être. Ma grande sœur faisait de la natation. Et donc voilà, j'allais nager, je sais pas moi, 4, 5, 6 fois par semaine. La piscine était vraiment à côté de chez mes parents, donc j'y allais en marchant, je revenais en marchant. Et puis, je me suis fait un super groupe de potes. Donc, ça me motivait vraiment à nager de plus en plus. Et mes parents, en fait, étaient coureurs à pied. Ils faisaient des marathons, des trucs comme ça. Ils allaient faire toutes les courses régionales. Moi, je suis de Franche-Comté, donc on avait vraiment pas mal de courses à pied. Et puis voilà, quand ils m'emmenaient les week-ends, il y avait une course pour les enfants. Donc, je faisais toujours la course un peu pour les enfants. Et puis, je sais pas, de fil en aiguille, on allait voir le triathlon chez moi à Vesoul une fois par an, ça m'a plu. La ligne à côté de nous dans la piscine, c'était des triathlètes, ça avait l'air fun, donc je me suis mis au triathlon. Vraiment, j'ai fait ma première course moi à 10 ans, et puis vraiment la première grosse échéance pour moi, ça a été quand j'avais 14 ans, j'ai dû faire les championnats de France minimes où je termine 3e. Et puis voilà, ça, j'ai mis un peu le doigt dans l'engrenage, ça s'est bien développé pour moi. J'ai fait un sport études à Nancy pendant 3 ans, mes 3 années de lycée. Puis c'est vraiment là où j'ai passé le cap, et à partir de 2008, champion du monde junior, et puis voilà, c'était parti quoi.
Au final, dans ta famille, personne n'avait fait du triathlon lors de la natation, mais pas de triathlon?
Non, pas du tout. Mon père, il a appris à nager quand il a eu 40 ans, donc ouais, c'était vraiment pas du tout le truc de faire du triathlon. Et maintenant, mon père en fait, mon beau-frère, donc le mari de ma sœur, s'y est aussi mis, donc voilà, j'ai essayé un peu d'inoculer le virus à tout le monde, mais c'était... Moi, j'ai toujours voulu être marathonien. Moi, c'était mon rêve depuis tout petit, c'est ce que je voulais faire. Et puis, je suis pas assez rapide pour en faire mon métier. Donc, le triathlon, ça me plaît vachement aussi. Je trouve qu'il y a vachement de diversité. L'entraînement, c'est beau, c'est vraiment fun. Et puis, j'avais cet avantage, moi, de commencer déjà l'épreuve par la natation et d'être bon nageur. Donc, ça jouait pour moi. Et puis, voilà, je regrette pas le fait d'avoir quitté la natation. Je regrette pas le fait de pas avoir tenté l'aventure de marathon. Donc, c'est vraiment le sport maintenant que moi qui me permet de m'épanouir. Ouais.
Alors, au tout début, donc, tu disais tu faisais de la natation. Ça, c'était ton gros point fort depuis toujours. La course à pied, au final, ce n'était pas forcément ton point fort au départ, mais tu t'es beaucoup entraîné. Tu es allé, il me semble, dans un groupe d'entraînement du côté de Reims. Tu as fait beaucoup d'entraînement en course à pied pour t'améliorer. Comment tu expliques maintenant aujourd'hui le fait que tu sois justement sur le circuit un très bon coureur à pied, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début?
Alors, c'est vrai que voilà, la natation, moi, j'ai fait ça pendant 10 ans déjà, de mes 5-6 ans jusqu'à 15-16 ans. Et je savais que j'allais avoir beaucoup moins besoin de le travailler ensuite. Et le triathlon, forcément, se gagne en course à pied. C'est la dernière épreuve, donc il faut forcément essayer d'éviter que ce soit votre point faible. Et j'ai passé des paliers. Ça a été dur parce que transformer voilà, le corps d'un nageur qui est pas du tout fait pour des impacts, avec des chevilles qui sont super, super flexibles et laxes, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai bossé, j'ai rejoint le groupe de Farouk Madassi en 2012. Je me suis entraîné avec François Barrère, Mayedine Mekissi, Benjamin André, etc. Et c'était vraiment une super, super expérience. Il me semble que j'ai bossé pendant 5 ou 6 ans avec Farouk. Donc forcément, le volume à pied a été un peu augmenté. On a fait des belles semaines, mais moi j'adore ça, j'adore m'entraîner, donc j'en demandais toujours plus. Et puis j'ai vécu des expériences incroyables, comme faire les championnats de France de cross, aller faire... Des 5000 sur piste, etc. C'est vraiment, moi, je vivais le rêve. Et ça m'a permis de passer un palier et surtout de rendre mon corps plus solide pour maintenant ne plus me blesser ou du moins limiter les blessures. Moi, j'adore courir. Si demain, je devais garder un seul sport, je garderais la course à pied. Donc c'était vraiment génial d'avoir vécu cette expérience. Et s'il y a un des trois sports que je suis encore le plus à la télé, c'est vraiment la course à pied. Donc, quand je vois là, encore récemment, tous les temps sur marathon chez les Français qui descendent et tout, c'est super motivant pour moi et je suis l'actualité athlétique avec grand intérêt, et surtout quand on a des athlètes maintenant comme Jimmy, etc., qui font des perfs de fou, ça fait vraiment plaisir à voir.
Et justement, est-ce que tu t'entraînes toujours autant en course à pied ou tu as un peu levé le pied par rapport à avant et tu t'essayes de peut-être travailler d'autres secteurs?
Alors la dynamique du triathlon, elle a un petit peu changé par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, la partie vélo est beaucoup plus intense et ça court un tout petit peu moins vite qu'avant. Bon, même si sur certaines courses, on est encore sur des allures qui sont très élevées, ça court un petit peu moins vite. Donc j'ai un petit peu basculé de volume course à pied sur le vélo. Et au final, je cours pas forcément moins vite parce que c'est assez complémentaire les deux sports. Mais je fais clairement, si on parle grossièrement en termes de volume et de kilomètres, je cours moins qu'il y a 5 ou 6 ans. Ouais. Peut-être aller 20 ou 30 kilomètres de moins par semaine qu'avant.
Et avant, tu parlais du côté blessure. Ces derniers mois, dernières années, tu as été un peu moins épargné par les blessures. Tu as eu une fracture de fatigue l'an dernier. Tu as eu pas mal de petits pépins physiques. Ça va mieux aujourd'hui?
Alors oui, ça va mieux aujourd'hui. Je pense que tout a commencé, moi, à peu près 3 semaines avant les JO à Tokyo. Je me suis blessé, je me suis fait une déchirure au mollet. Et voilà, la course arrivait dans 3 semaines, donc il fallait faire tout ce que je pouvais pour être au départ. Ça a été dur. Ensuite, le problème, c'est que derrière, moi, j'ai couru après la forme. J'avais vraiment envie de courir, donc j'allais tout le temps à l'entraînement et un pépin en entraîne un autre. Forcément, on compense et on a tous essayé de revenir plus tôt que prévu. Et j'ai galéré pendant 2-3 ans jusqu'à cette grosse blessure. Il y a presque un an maintenant, j'ai fait une fracture de fatigue du col du fémur. Donc ça m'a pris entre 4-5 mois à revenir vraiment pour pouvoir me réentraîner. Et puis ça a été une année 2023 qui était galère. Donc j'ai vraiment tout repris du début, repris des bases. J'ai pris un nouveau préparateur physique. Et on a vraiment repris tout depuis le début. C'est un long process de recommencer parce que moi, j'ai fait presque 8 ou 10 semaines sans courir. Et il fallait vraiment reprendre depuis le début. Mais là, je suis revenu à des volumes qui me conviennent, autour de 90-100 km par semaine à pied, et sans aucun problème. Donc maintenant, on va installer un peu de vitesse là-dedans et puis on verra ce que ça donne cet été. Ouais.
Et comment tu as vécu justement cette période où, un petit peu au final, un peu dans le flou, tu sais pas ce qui va arriver plus tard. Comment tu as vécu ça?
Alors, ouais, c'est très dur. C'est surtout que... Moi, ma vie, elle évolue autour de l'entraînement. C'est ça qui dicte mes journées. Je m'entraîne une trentaine d'heures par semaine. Donc, en gros, la veille au soir, quand je vais au lit, je pense à la journée d'entraînement du lendemain. Donc, forcément, de se dire qu'on va avoir moins de séances, etc. Puisque avec une fracture de fatigue, col du fémur, j'étais en béquille, quoi. C'était même compliqué d'aller faire du vélo. Au début, c'était pas évident. Et puis, voir les autres courir, quoi. C'est ça qui est très dur aussi, parce que moi, je reste un passionné de sport, et voir les autres s'entraîner, voir les autres courir. Je suis même monté en stage à Font-Romeu avec mon groupe, alors que je pouvais pas courir. Et ça, c'est le plus dur, je pense. C'est vraiment de pas pouvoir. C'est comme envoyer un gamin dans un magasin de bonbons et il a rien le droit de toucher. C'est vachement dur. Mais voilà, ça m'a aussi permis, moi, de me poser. J'ai regardé les cours, j'ai essayé d'analyser un peu ce que les gars faisaient, de voir un peu quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses, s'ils en avaient. Et voilà, je dis pas que je suis dans leur tête maintenant, mais je sais s'il y a un moment ils vont faire tel ou tel truc, je sais que c'est parce qu'ils sont peut-être un peu plus en galère et ce sera à moi de saisir ma chance. Donc voilà, ça m'a permis aussi de prendre du recul, passer du temps avec ma copine, de faire des trucs comme ça. Et voilà, maintenant je suis ultra motivé pour cette année qui va être ma dernière année moi sur la distance olympique. Donc elle a bien démarré. Maintenant à moi de faire le maximum pour que ça continue.
Ouais, tu le disais au tout début, t'as couru la semaine dernière, mais avant ça, t'avais pas couru depuis pas mal de temps. T'avais tenté un retour au Test Event à Paris, en 2023. Finalement, t'as dû abandonner. T'étais pas encore prêt à ce moment-là.
Ouais, j'étais pas encore prêt. J'avais eu un problème au solaire quelques semaines avant la course, parce que moi j'avais vraiment tenté le tout pour cette course en venant de la fracture de fatigue. J'étais monté à fond romeu pendant 10 ou 12 semaines, j'arrive plus à me rappeler. Et j'avais fait même des séances à plus de 4000 mètres d'altitude pour essayer vraiment de m'affûter, parce que quand on passe des mois sans courir, on prend du poids, et surtout de refaire toutes les adaptations physiologiques possibles pour être au maximum sur cette course, et c'est pas passé. Ça a été une période qui a été vraiment dure. Ma dernière course complète, c'était il y a plus d'un an, c'était au mois de mars l'année dernière. Donc voilà, j'étais vraiment content d'aller à Abu Dhabi cette année. La course a été annulée.
Ouais.
Donc ça a été encore un coup de me dire la poisse qui me poursuit. Et voilà, j'ai pu ouvrir la saison le week-end dernier à Carteira. Je fais deuxième. Une course pour moi qui a été bien complète. Forcément, je manque énormément de rythme de course et de trois petits automatismes. Mais là, moi, mon objectif c'est de courir et surtout de montrer à la fédération que je suis en forme et que je suis là et qu'il faudra compter sur moi.
Donc là, tu vas un petit peu enchaîner les courses pour reprendre aussi ce rythme-là. En tout cas, ça te le fait là d'avoir couru le week-end dernier. Ça t'a rassuré quand même par rapport à ta forme et tout ça?
Ouais, ça m'a vraiment rassuré parce que voilà, j'étais aux avant-postes de la course du début jusqu'à la fin. Je termine deuxième à peut-être 14 ou 15 secondes du vainqueur. Donc sur un effort de 1h45, c'est pas énorme. Et je me suis surtout senti bien, et surtout le lendemain, voilà, j'avais aucune douleur, aucun problème, tout s'est bien passé. Donc c'est surtout ça le positif, c'est d'être retour un peu dans le bain et de passer ce stress de la première course.
Alors tu me parlais avant, tu fais entre 80 et 100 km de course à pied par semaine. À quoi au final ressemble une semaine chez toi en termes d'entraînement, de kilométrage, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied?
Alors en natation, on est entre 25 et 30 km par semaine, 6 séances par semaine. En vélo, entre 450 et 500. Bon, après, suivant, voilà, si on a un fond romeu, forcément avec le dénivelé, on va faire un petit peu moins de kilomètres. Et pareil, je fais 6 séances par semaine. Et en course à pied, entre 80 et 100 km, 7 à 8 séances par semaine aussi.
Donc toujours un peu plus de course à pied.
Ouais. Puis après, bon, c'est moi aussi qui pousse, parce que voilà, j'adore aller courir. Des fois, des petits footings d'une demi-heure qui servent à rien, j'aime bien les rajouter en fin de semaine juste pour m'aérer l'esprit. Mais voilà, moi, la course à pied, je sais que à partir du moment où j'arrêterai de m'entraîner pour des objectifs, je continuerai. La natation, c'est clair que j'en ferai plus, parce que ouais, aller à la piscine et tout, je l'ai assez
depuis
fait
depuis tout petit maintenant.
Ouais. Mais le vélo, je continuerai, mais plus en mode un peu aventure et tout ça. Et par contre, la course à pied, ouais, je pense que tous les jours, j'irai courir.
Et justement, sur tes journées d'entraînement, tu vas, j'imagine, quasiment tout le temps doubler, voire même tripler du coup.
Ouais, on a tous les jours trois entraînements, à part peut-être le vendredi où je vais pas aller courir, et le dimanche où on nage pas. Bah, après, c'est une question de logistique avec les piscines, etc. Aussi. Ouais. Mais sinon, ouais, on est tous les jours à minimum 2-3 entraînements. Ouais.
Et ça va niveau fatigue, tu arrives à récupérer de tout ça? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour à ce niveau-là?
Alors on récupère. Bon, forcément, on a des périodes où on a une fatigue qui est nécessaire et qui est voulue et qui est vraiment qui fait partie du plan d'entraînement. Mais plus l'âge avance et plus il faut faire attention à tous les détails. Forcément, moi, quand j'avais 20-25 ans, voilà, si je manquais 2 heures de sommeil, c'était pas très grave. Mais là, voilà, je me suis mis dans une routine. Surtout, je me suis entouré des bonnes personnes. Donc moi j'ai quelqu'un qui fait à manger chez moi, qui me livre à manger. Je sais qu'il faut que j'aille au lit, voilà, avant 10h30 du soir, qu'il faut que j'aie mes 8 à 9 heures de sommeil, que je fasse ma sieste, que je fasse quand même mes bilans sanguins pour avoir toujours voilà, être sûr que tout va bien. Donc en fait, c'est pas ultra contraignant en fait de s'entraîner beaucoup, mais il faut le faire avec consistance, il faut être régulier dans l'entraînement, il faut faire attention. Et en fait, c'est pas sorcier, c'est pas si sorcier que ça. Moi, je sais quand je me suis blessé à chaque fois, c'est parce que j'avais négligé un de ces trois trucs, que ce soit alimentation, sommeil ou récupération, que ce soit les massages, etc. Je sais que c'est un de ces trois trucs-là que j'avais négligé. Mais plus l'âge avance, plus il faut y faire attention. Et moi, bientôt 35 ans, voilà, faut que je fasse très attention.
Alors, tu me parlais de ta passion et de ton amour pour la course à pied. Au final, c'est quoi ton entraînement, on va dire, favori en course à pied? Est-ce que tu as quelque chose que tu adores faire et que tu redemandes ou...
Ouais, moi, alors ça a un peu changé. Moi, j'adorais la piste avant. Okay. J'adorais faire des séances sur piste. Et je me souviens de séances sur piste avec Farouk derrière le vélo qui était incroyable. Et là, maintenant, moi, j'adore tout ce qui est vraiment long, quoi. Des seuils un peu longs, tout ça, c'est ce que j'aime bien. Et pendant le... D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant le Covid, dès qu'on a pu ressortir, en fait, moi, les premières semaines, j'allais courir sans montre. Et je revenais, mais des fois, je suis sûr que j'avais fait 50 bornes, quoi. C'est ce que j'adore, quoi. C'est aller courir, prendre des chemins que je connais pas et me perdre et revenir plus tard. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est cet esprit de liberté dans la course à pied. C'est de se dire, allez, je peux courir, je prends une paire de chaussures, j'y vais. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, moi, le seuil, c'est cette allure un peu facile qui devient seulement dure au bout de 40, 45 minutes, 50 minutes. C'est plutôt ces entraînements-là que j'adore maintenant et que je pourrais faire, voilà, tout le temps, tous les jours. Et j'adore ça.
Et justement, tu as des entraînements que tu aimes moins, peut-être?
Alors, bon, les côtes, je suis pas un fan des côtes. Moi, je fais 68 kilos, donc les gars, je suis un des lourds dans le triathlon. Donc, c'est pas forcément mon truc. Et ouais, après, le reste, non, ça va. Après, franchement, que ce soit des fartleks, j'adore aussi. Les seuils, la piste, ouais, tout ça, ça me va bien. Après, ouais, c'est plutôt les côtes, c'est pas trop mon truc. Ouais.
Alors, pour rappel, la distance olympique donc, du triathlon, donc c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km donc, de course à pied. Sur ces 10 km de course à pied, ça va être quoi un peu pour toi la séance clé pour réussir un 10 km justement après avoir fait la natation et le vélo?
Bah alors après, il y a des séances ultra classiques, hein, le 10x1000, nous des allures de course. Moi, samedi, par exemple, au Portugal, j'ai couru plus ou moins à 20 à l'heure, à 19,7 ou un truc comme ça, après avoir nagé donc 1500 mètres et roulé 40 km, pardon, plus ou moins 20 à l'heure. Ça, c'est des allures qui permettent voilà, de gagner ou de faire podium sur 80% des courses dans le monde. Maintenant, sur des World Series, on est plutôt proche des 29,15, 29,30 dans ces eaux-là, quoi. Donc, je sais que c'est là qu'il faut tendre. Et donc, après, on va avoir des séances ultra classiques, des 5 x 2000, des 10 x 1000 aux allures de course. Et après, voilà, plus ça passe avec aisance, moins il y a de récup et plus on sait qu'on va être prêt. Après, l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on fait ça tout le temps dans des semaines qui sont assez importantes en termes de volume, qui sont toujours autour des 30 heures. Donc forcément, en fait, les séances, elles se font jamais avec la fraîcheur. Mais nous, les 10 km se font jamais avec la fraîcheur non plus. Donc, je pense que c'est bien. Moi, c'est aussi l'évolution que j'ai eue dans mon entraînement, c'est de maintenant essayer de toujours garder un volume assez élevé pour que les séances, entre guillemets, il n'y ait pas de séance clé, il n'y ait pas de séance qu'on veuille absolument réussir et on a un peu moins de stress à propos de la séance et surtout que ça reproduise au maximum les conditions de course. Donc, je pense que ouais, ces séances-là, des 3 x 3000, des 5 x 2000, des 10 x 1000, c'est des séances que j'ai fait et refait plein de fois. Ouais. Donc, ça, c'est vachement voilà, typique du triathlète. Et puis après, sur la piste, voilà, les 18 x 400, 16 x 600, 10 x 800, c'est des trucs qu'on fait aussi pas mal. Ouais.
D'accord. Et justement, on est en mars. Les Jeux Olympiques, c'est en août. Comment tu fais pour gérer? Parce que là, tu as déjà commencé tes compètes, donc ça fait déjà quelques temps que tu t'entraînes bien. Comment tu fais pour gérer une saison, au final, qui est quand même très longue?
Alors... Ouais, moi j'ai passé un hiver où vraiment j'ai essayé de rebosser tout mon volume parce que j'avais fait une année 2023 qui était un peu voilà, pas terrible, un peu en demi-teinte entre les blessures, etc. Donc moi j'ai passé presque 12 semaines à 30 heures avant de recourir, à 30 heures d'entraînement. Donc vraiment sans discontinuer, avec en plus les fêtes de fin d'année, etc. au milieu. Donc c'était assez imposant comme volume que je me suis mis. Moi, en gros, les prochaines courses importantes, elles vont être en mai et puis en juillet. Et en fait, pour essayer d'avoir ce petit extra, je vais monter les deux fois en altitude, deux fois à fond romeux, pour essayer de passer un cap, reperdre encore un peu de poids et essayer de replacer un peu plus de vitesse maintenant. Et essayer de vraiment de libérer toutes les filières énergétiques que je peux faire, puisque pour l'instant, moi, j'ai rebossé que vraiment l'aérobie fondamentale et j'ai un manque, j'ai un manque de vitesse que je ressens. Et je pense que c'est ça qui va me permettre de passer ce petit cap pour les courses de cet été. Et puis ensuite, c'est vrai que nous, la saison, elle démarre là, fin mars, et elle se finit début novembre. Donc, il faut essayer de maintenir la forme. On en voit beaucoup en milieu de saison qui explosent et qui ont du mal à finir. Mais moi, comme je suis assez, je suis un peu un intégriste dans le triathlon, j'essaye de tout mettre en place pour que ça marche. Je pense que si encore je m'occupe bien des trois essentiels de récupération, ça devrait le faire.
Et tu me parlais de fond romeux, c'est aujourd'hui l'altitude pour toi, ça prend une part importante dans ton entraînement, c'est quelque chose d'important d'aller en altitude?
Ouais, l'altitude, pour moi l'altitude, il y a deux trucs, il y a l'altitude déjà moi que je pratique depuis la première fois que j'y suis allé en 2010 ou en 2011, donc ça fait un bout de temps que je vais en altitude. Maintenant, je pense pas qu'il y ait d'énormes différences entre faire de l'altitude comme à fond romeux où on est à entre 1006 et 1008, ou aller faire vraiment de la très haute altitude. Moi, j'ai déjà fait de vivre à 2005 et j'ai aussi déjà fait de dormir dans des chambres très, très, très élevées. Je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Je pense que j'ai fait plus d'erreurs à essayer de chercher à dormir plus haut qu'à déjà faire les choses bien à fond romeux. On voit beaucoup d'athlètes qui ont fait des médailles olympiques en restant à 1800 mètres. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin vraiment de se retourner le cerveau à faire des trucs beaucoup plus durs. Et la chaleur, moi j'ai fait aussi quelques entraînements à la chaleur, je trouve que ça aide vraiment. Alors c'est deux trucs qui sont un peu complémentaires, j'ai essayé même de faire les deux en même temps, c'est pas évident, il faut vraiment avoir un bon suivi. Mais ouais, pour moi l'altitude c'est essentiel. J'ai fait fond romeux, j'ai fait Flagstaff, j'ai fait Iten, j'ai fait Boulder. Il n'y a pas énormément de différence où je trouve un coin où on a vraiment envie de s'entraîner et je pense que ça le fait. Mais en tout cas, si on est bien accompagné et si on fait les choses correctement, pour moi, il y a un vrai avantage à gagner, à aller en altitude. Ouais. Ouais, moi je le ressens. Après, je le ressens. En fait, j'y suis tellement allé que maintenant, mes adaptations physiologiques, elles se font ultra rapidement. J'arrive à fond romeux, au bout de 3 jours, je suis déjà remonté à 97 de SAT et je peux faire les séances que je veux. Donc on cherche toujours à essayer d'aller un peu plus vite, de trouver un peu plus d'aller peut-être à Flagstaff qui est un peu plus haut ou des trucs comme ça, parce que voilà, avec les années, moi mon corps a vraiment pris cette habitude de l'altitude. Mais en tout cas, voilà, si quelqu'un demain me demande est-ce que l'altitude ça vaut le coup, je dirais oui, mais je dirais soyez attentif et précautionneux quand vous allez en altitude pour la première fois, parce que vous pouvez très rapidement vous brûler les ailes, mais par contre c'est un super outil. Ouais.
Ouais, il faut faire attention, faut pas aller trop vite, il faut faire doucement au début et petit à petit ça ira.
C'est ça, exactement. On voit beaucoup de gens qui arrivent à fond romeux qui se disent bon, je suis en stage, il faut que je m'entraîne le plus possible parce que j'ai pris 2 semaines de vacances. Mais déjà, si vous faites ce que vous faites en pleine, en altitude, vous avez déjà tout gagné, quoi.
C'est déjà bien. Tu parlais avant de la densité qu'il y avait sur marathon en France. Sur triathlon, il y a aussi une très belle densité. Comment toi, comment tu le vis et comment tu le vois, cette densité?
Moi, déjà, je trouve que c'est une super chose, quoi. Enfin, c'est vraiment bien qu'on ait cette densité. Ça nous pousse tous vers le haut. Et surtout, même en termes de médias, de sponsors, d'activation, c'est génial, quoi. Parce que quand t'as un mec qui domine, que ce soit un sport ou que ce soit un sport dans une nation, c'est un peu déjà ennuyeux pour le public, c'est ennuyeux pour les autres. Et je trouve que voilà, c'est pas le meilleur système. Maintenant, on est 4-5 à vraiment être devant, à jouer les premières places, à pouvoir gagner des World Series. Je pense qu'on est en capacité de faire une ou des médailles en individuel aux Jeux Olympiques. Donc voilà, pour moi c'est à la fois super gratifiant parce que je pense avoir contribué à ça dans le triathlon français. Et surtout super motivant parce que les gars, voilà, ils s'entraînent, tout le monde s'entraîne dur, on a vraiment envie de s'aider. Et surtout en course, en fait, on reste une équipe de France, même si c'est un sport individuel, et on sait quelles sont nos forces et nos faiblesses. On sait que ce sera toujours très difficile de courir plus vite qu'un Alexis Guy ou que des mecs comme ça. Mais par contre, on sait qu'ensemble, on peut forcément aller truster des médailles. Donc ouais, c'est ultra motivant. Moi, quand j'ai démarré vraiment voilà, à être chez les élites, en 2012, il y avait Laurent Vidal et Davidos avec lesquels j'ai fait les Jeux à Londres. Et c'était nous trois, il y avait pas grand monde derrière. Et j'ai eu une période un peu de transition après eux où j'étais un petit peu tout seul. Et ouais, c'était différent. Maintenant, voilà, moi j'adore l'ambiance qu'il y a en équipe de France. Franchement, on rigole à chaque fois qu'on va en déplacement et c'est super sympa. Ça va me manquer, c'est sûr.
Alors justement, donc tu prépares les Jeux. Tu disais dans plusieurs interviews que toi, ton objectif premier, c'est d'avoir une médaille olympique en individuel. Donc tu as déjà eu différentes médailles, mais pas en individuel. Ce serait un échec pour toi de ne pas y être?
Alors, de ne pas être au jeu, ouais, ce serait une déception, un échec, je ne sais pas, parce que comme j'ai dit, moi j'ai déjà fait trois fois les Jeux, donc entre guillemets, j'ai déjà eu trois fois ma chance de ramener une médaille. Et surtout, en fait, l'expérience et le recul me fait dire qu'on a une fédération qui est intelligente et qu'ils emmèneront au jeu les trois mecs qui sont capables de faire une médaille. Donc, si j'y vais pas, je serais conscient que ça veut dire que j'ai pas été j'ai été jugé non capable de faire une médaille et que je sois d'accord ou pas d'accord, c'est pas le problème, c'est que les trois autres pourront faire une médaille et ça j'y crois. Et à un moment il faut aussi être assez terre à terre. Moi j'ai passé une année à être blessé. Je peux pas légitimement arriver et dire au sélectionneur vas-y, emmène-moi, fais-moi confiance. Non, lui son boulot c'est de ramener une médaille, c'est pas de faire confiance à Vincent Luis. Donc je serais déçu s'il m'emmène alors que je le mérite pas, et je serais déçu si j'y vais pas alors que je pense le mériter. Mais je sais qu'ils sont intelligents et surtout qu'ils ont cette communication avec nous qui fera que tout se passera bien. Et si d'aventure je devais pas y aller, en tout cas je serais vraiment à fond derrière les autres. Et si demain je devais y aller, je sais que les trois qui iront, on se battra aussi en pensant à celui qui est resté sur la touche.
Et donc tu disais, 2024 sera ta dernière année sur format olympique. C'est quoi la suite justement, donc du plus long ?
Ouais, 2024 c'est ma dernière année, c'est sûr. On m'a demandé plusieurs fois, ouais, mais la dernière année, c'est la dernière année avant la dernière année. Mais non, j'ai assez fait de cours. C'est ultra contraignant. Moi, j'ai dû aller à Abu Dhabi déjà 10 fois dans ma vie, Yokohama 6 ou 7 fois. Les villes, je les connais par cœur, c'est toujours pareil. Et surtout, on arrive, on repart, c'est un peu voilà. C'est puis entre guillemets, il y a une différence entre courir pour l'équipe de France, bosser avec une fédé, etc. Et après, sur le long, on est plus dépendant, on peut avoir plus de sponsors, on est un peu plus libre dans notre communication. Et moi, c'est ça que maintenant, à presque 35 ans, je vais plutôt rechercher. Créer plutôt une image autour de moi et une marque autour de moi. Donc voilà, je pense que puis à un moment il faut aussi savoir s'arrêter quoi. J'ai fait toutes les courses que je voulais faire, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, c'est ce dont je rêvais quand j'étais petit, je les ai fait. J'ai gagné plus de médailles et de courses que ce que j'aurais jamais rêvé de gagner. Donc maintenant j'ai accompli 99% de ce que je voulais accomplir dans le triathlon. Moi, j'ai toujours dit, en triathlon, il y a deux courses à gagner, c'est les Jeux et Hawaï. Et donc, ce serait bien que j'essaie d'en gagner une des deux, quand même.
Bon, on croise les doigts, en tout cas, pour cette année. L'objectif, maintenant, sur les formats plus longs, ce serait quoi ?
Forcément, Hawaï, c'est le Graal, c'est ce qu'il faut gagner. On a eu Sam Laidlaw qui a gagné les championnats du monde à Nice, ouais, l'année dernière, qui a fait deuxième à Hawaï il y a 2 ans, qui là, est un des favoris pour la course cette année. Donc, on a également un très bon vivier sur longue distance chez les Français, hein, on a Clément Mignon, Mathis Margerier, c'est des mecs qui marchent très très fort là, qui sont très costauds. Donc voilà, moi ça va être à moi de prendre un peu le step up sur le longue distance, aller courir avec eux. On a un circuit qui s'appelle le T100 qui est arrivé là, qui débarque avec pas mal de prize money. Et donc ça va être sympa de découvrir cette ambiance. J'en ai déjà fait quelques-uns. Moi j'ai gagné à Bahreïn et à Daytona il y a 2 ans, en 2022. Donc j'ai déjà un petit peu un pied dedans. Maintenant, les courses sont tellement rapides qu'on finit des courses en 3h30, 3h15. Donc, ce n'est pas une énorme différence par rapport à nous, la distance olympique. Donc, non, ça va être une super expérience. Maintenant, il va falloir reconstruire tout un business model parce que voilà, il y a des sponsors qui ne sont pas attirés par tout ce qui n'est pas olympique. Et par contre, il y en a d'autres qui sont ultra attirés par tout ce qui est longue distance. Et, Et surtout, ils ont beaucoup plus d'exposition. Comme on n'est pas gouverné par une fédération, c'est beaucoup plus facile aussi pour nous communiquer. Donc, ça va être un nouveau challenge. Je suis vraiment un peu impatient et excité d'y aller. Et surtout, voilà, faut s'adapter. C'est un nouveau vélo, c'est des nouvelles distances. Et je vais peut-être enfin pouvoir le faire mon marathon. Ouais.
Alors, tu me parles de sponsors. Ça me fait la transition pour la dernière petite partie. Justement, pour réussir dans un sport, les sponsors, c'est hyper important, évidemment. Oakley, pour toi, en fait partie. On te voit toujours avec des lunettes sur le nez, sur tes courses ou tes entraînements. Tu ne devrais plus faire ça sans?
Non, bah, surtout sur le vélo. C'est, voilà, pour moi, c'est impossible. Je sais qu'il y en a qui roulent sans lunettes, mais pour moi, c'est clairement impossible de rouler sans lunettes. Et puis, je trouve que voilà, c'est chez les hommes, on n'a pas beaucoup de bijoux. On va porter une montre, une bague, un truc comme ça. Mais les lunettes, ça fait un petit accessoire qui est toujours un peu cool, surtout sur certains modèles qui sont un peu futuristes. Moi, j'aime bien quand ça change un peu. Donc, Oakley, ça fait un bout de temps maintenant. Je pense 2011 ou 2012, les premiers contrats que j'ai signés. Je me rappelle quand j'avais fait champion du monde junior, j'avais envoyé un mail et il m'avait dit « Ouais, c'est un peu jeune ». Et j'avais répondu en disant bah, « Je continuerai à m'acheter mes Oakley jusqu'à ce que vous me preniez en contrat. » Et du coup, j'avais signé en 2012 avec eux et ça se passe super bien depuis. Quoi. C'est vraiment une marque moi, que j'adore, comme la marque de vélo avec laquelle je suis, Specialized ou comme chez Nike. En fait, c'est des marques qui innovent. Et moi, c'est ce que j'adore. Je suis toujours à la recherche de ce petit plus qui va me faire progresser ou être meilleur que les autres ou être différent des autres. Et c'est ça qui est génial avec Oakley, c'est qu'il y a toujours une nouvelle technologie, il y a toujours une nouvelle monture qui arrive. Alors, c'est toujours au début, « Ah ouais, mais l'ancienne était mieux, l'opinion publique. » Et en fait, 6 mois après, tout le monde les porte. Et c'est ça, moi, que j'adore, c'est qu'en fait... Et on voit ça dans des grosses boîtes comme Apple. « Ah, l'iPad, ça sert à rien, maintenant tout le monde a un iPad. » Donc, je vais pas dire qu'il crée un besoin, mais en tout cas, il génère une envie, ça, c'est clair.
Et justement, en parlant de nouveautés, il y a la Sphera qui vient de sortir. C'est un modèle que toi, tu as déjà pu essayer. C'est quoi ton avis déjà par rapport à tous les modèles maintenant que tu as pu essayer?
Alors, la Sphera, j'ai dû la recevoir peut-être en janvier ou un truc comme ça. Et je suis parti en stage direct à Lanzarote. Donc là, Lanzarote, c'est lunettes de soleil du matin au soir. Donc c'était vraiment cool. Alors, c'est une lunette que je porte beaucoup en course à pied parce que qu'est-ce qu'on veut dans une lunette pour la course à pied, c'est qu'elle soit légère et qu'elle maintienne bien. Et la Sphera, elle est vraiment top pour ça. Après, sur le vélo, c'est super. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé à la porter à Lanzarote. Et il y a énormément de vent et surtout souvent du sable dans le vent. Et comme je pense qu'elle a un verre qui est un peu plus grand qu'un modèle comme une Radar ou qui sont les autres modèles chez Oakley, elle protège un peu mieux. Donc voilà, moi, c'est un modèle qui me convient, que ce soit pour faire du vélo ou pour courir, parce que voilà, la légèreté et le maintien. Moi, j'ai pas une grosse tête, donc il me faut des lunettes qui soient quand même assez serrées et qui me maintiennent bien. Et la Sphera, pour moi, elle est ultra pertinente dans la recherche que je veux par rapport à une paire de lunettes. Après, il y a d'autres paires que je porte aussi. Comme la Radar, comme la Kato, que j'ai toujours un peu porté, mais après avoir les dernières lunettes, c'est quand même cool. Ouais.
Toujours sympa. En parlant de la Sphera, tu le disais, c'est un produit très léger qui maintient, qui est bien maintenu sur la tête et sur le nez, mais c'est aussi bien adapté pour les casques à vélo. Tu confirmes?
Ouais, en fait, la règle numéro 1 quand on met des lunettes avec un casque de vélo, c'est toujours d'avoir les branches qui passent au-dessus des lanières. C'est comme ça qu'on reconnaît un amateur ou un pro, en fait. Donc, en fait, la Sphera, de par sa forme, elle est super adaptée pour ça. Et c'est ça qui est cool. Et puis, en plus, il y a les petits détails sur le côté avec les ouvertures qui sont toujours un peu plus fun qu'une monture classique. Quoi.
Alors, ils ont mis justement aussi une technologie qui permet d'éviter que ça glisse, alors avec la transpiration ou l'humidité s'il pleut. Avec tous les entraînements que tu as pu faire, tu l'as ressenti?
Ouais. Bah, c'est clair que, comme je disais... Surtout en course à pied, on a beaucoup moins de vent par rapport au vélo, on a une tendance à beaucoup plus transpirer. Et de toute façon, quand vous essayez de porter une lunette qui n'est pas faite pour le sport et que vous les mettez pour courir, vous allez tout de suite sentir que la lunette, toutes les 3 minutes, vous essayez de la remonter sur votre nez, alors que ce soit la Sphera ou la Bisphera, elle ne bougera pas, ça c'est sûr.
Et encore une fois, là, on est vraiment sur une lunette multisport et pas juste course à pied, donc aussi bien, donc je le répète, pour du vélo ou d'autres sports.
Ouais, je pense même des sports, de précision comme le tir, etc. Les mecs vont porter cette lunette parce qu'après, ils gardent leur technologie, prisme, etc. sur le verre. Donc ça reste un verre qui est ultra adapté à toutes les conditions, quoi.
Et justement, en parlant du verre et des conditions, toi, tu as pu les essayer, que ce soit quand il y a du soleil, du mauvais temps. Tu n'as eu aucun souci avec tout ça?
Non. Alors, c'est le gros avantage qu'il y a avec Oakley aussi, c'est que le système de verre, il est incroyable. Et pour moi, la plus grosse différence avec d'autres marques, c'est aussi le système avec quand il y a de la buée. Une lunette Oakley, vous allez vous arrêter, vous allez prendre un peu de buée, mais dès que vous allez redémarrer, ça va partir. Vous prenez une autre lunette du commerce, la buée, elle va mettre une éternité à s'en aller. Et ça, c'est super bien dans des conditions qui peuvent être changeantes. Dès que vous avez un peu de pluie ou dès que vous avez un peu d'humidité, forcément, c'est pas évident. Mais en tout cas, avec ce modèle et avec les verres Oakley en général, c'est un des avantages que moi, j'ai trouvé, et surtout dans mon sport. Quand on sort de l'eau, qu'on est mouillé, qu'on transpire, forcément, on va prendre un peu de buée. Et sur cette marque, c'est pas le cas.
Et juste avant de clôturer ce sujet Oakley, pour toi, quel est le gros point fort de ce modèle?
Alors là, c'est surtout le champ de vision. En fait, on arrive sur un verre qui est complet, donc surtout sur une Sfera où c'est un seul bloc qui passe de droite à gauche ou de gauche à droite. Et c'est ça qui est bien, c'est de pas avoir en fait comme dans une voiture en fait, quand vous regardez le pare-brise et que vous avez des angles morts, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec la Sfera, vous avez pas le verre, il est complet, donc vous avez pas de problème à regarder de tous les côtés.
Alors, merci à toi.
Avec plaisir, merci de m'avoir reçu, c'était sympa.
Ouais, alors le podcast touche à sa fin. C'était hyper intéressant de discuter avec toi, d'avoir de tes nouvelles à quelques mois aussi des jeux. Tu aurais peut-être un dernier petit mot de la fin, un conseil peut-être, une envie de t'exprimer.
En tout cas, merci à vous, Ronix. Je suis un peu vos actus et je trouve que c'est vraiment cool ce que vous faites. Et vous êtes toujours un peu les premiers sur les actus. Donc voilà, dès que... J'essaye des fois de ne pas aller sur Instagram pour ne pas être spoilé sur les résultats. Mais voilà, je trouve que c'est bien ce que vous faites. C'est impartial et il n'y a pas de blabla. On a les résultats et les faits et c'est super sympa. Donc en tout cas, vous avez un follower ici qui est content de ce que vous faites. Donc si vous pouvez continuer, vous continuerez à me réjouir de suivre l'athlète français. Ouais.
Merci à toi, ça fait hyper plaisir et évidemment on n'est pas prêt de s'arrêter, on compte bien continuer. Donc merci à toi, je te souhaite une très belle saison en espérant évidemment te voir à Paris et en tout cas ensuite te voir sur des distances plus élevées. Merci à la marque Oakley d'avoir sponsorisé ce podcast. Nous on se donne rendez-vous donc très prochainement pour un prochain épisode donc de Call Room. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Alors merci encore et à très bientôt.
Merci.
Merci, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.